Et à 7h52, votre invité, Patricia Martin, c'est Guillaume Daré, journaliste à France 2, pour son livre « Le fort de Brégançon, histoire, secrets et coulisses des vacances ». Le livre paraîtra le 6 juin aux éditions de l'Observatoire.
Bonjour Guillaume Daré.
Bonjour.
Heureuse concordance des temps, on peut dire ça comme ça. Quand vous avez commencé à écrire ce livre, vous ne pouviez pas imaginer qu'on en parlerait autant ou est-ce que c'était prévisible ?
J'imaginais pas qu'on en parlerait autant, mais dès les débuts de mon enquête, je me suis rendu compte que ce lieu intéressait beaucoup les équipes, l'entourage, les proches d'Emmanuel Macron, déjà pour des raisons extrêmement pratiques, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à lui trouver un lieu de villégiature l'été dernier
déjà,
parce que déplacer un président, c'est des grosses mesures de sécurité, ça nécessite de gros moyens. Donc très vite, ils se sont dit, est-ce que finalement le fort de Brégançon, c'est pas la moins mauvaise des solutions, si j'ose dire? Et puis j'ai senti que ça les intéressait, parce que j'imagine on va en parler, il y a aussi, au-delà de cette décision pratique, une vraie dimension politique et symbolique.
Oui, alors il y a une position, ce fort a une position dominante sur la mer, ce qui est peut-être normal pour un édifice militaire, mais qui est effectivement symbolique quand ça devient une résidence présidentielle.
Absolument. Le premier qui s'y rend, c'est le général de Gaulle. On est en 1964. Alors, et d'ailleurs, à l'époque, c'est pas encore une résidence présidentielle officiellement. Il y va en 1964 pour les 20 ans du débarquement de Provence. On sait pas trop où le loger à l'époque. Pendant plusieurs mois, l'Élysée s'interroge, Nice, Toulon. Et finalement, on lui trouve ce fort militaire. Il va y passer une nuit, le 14 au 15 août 64.
Il y a des moustiques et le lit est trop petit.
Une seule nuit, il se fait dévorer par les moustiques dans une zone qui est un petit peu marécageuse. Le lit est trop petit, lui qui fait plus d'un mètre 90.
Il est jamais retourné.
Donc quand il en repart, personne ne parie sur le fait qu'il va y revenir. D'ailleurs, il n'y reviendra pas. Et pourtant, 4 ans plus tard, début 1968, il en fait une résidence présidentielle. Et son successeur, Georges Pompidou, eh bien, il va s'y rendre.
Il a adoré.
Très rapidement.
Le couple Pompidou a adoré.
Le couple Pompidou a adoré. Et c'est vraiment Georges Pompidou, on peut dire, qui va institutionnaliser le fort de Brégançon comme une résidence présidentielle, le faire rentrer dans l'imaginaire des Français en tant que résidence présidentielle. Parce qu'on est aussi au début des années 70, à une période où les vacances, c'est en train de devenir quelque chose de sacré. On est en plein dans ces 30 glorieuses françaises.
Et les photos prises chaque année, hein.
Absolument. Il y a des photos, que j'ai pu voir où on le voit à l'entrée du fort, qui descend, qui serre des mains. Finalement, c'est l'image de Georges Pompidou, président, mais français presque comme les autres en vacances au mois d'août sur les bords de la Méditerranée.
La photo de Jacques Chirac qu'on n'a jamais vue, qui est en très petit appareil, on va dire, dans son plus simple appareil.
Alors,
elle existe ou pas? Vous l'avez jamais
vue? Mais là, visiblement, c'est pas une légende, puisque j'ai croisé un photographe encore hier matin qui me disait que oui, cette photo existe, c'est-à-dire au début des années 2000, Jacques Chirac, un matin, entend un hélicoptère qui décolle de la baie, il se précipite à la fenêtre, il se trouve que depuis plusieurs jours, il y a le yacht de Michael Schumacher qui mouille dans la baie devant Brégançon, et donc il se précipite à la fenêtre, jumelle à la main, sauf qu'apparemment, d'après les papardinets,
de mettre le reste.
Totalement nu.
Bien.
Les papardis le mitraille. Cette photo, néanmoins, ne sera évidemment jamais publiée. Mais d'après les photographes, elle existe. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle est techniquement faisable. Parce que vous avez une zone délimitée d'environ 300 mètres, hein, dans laquelle, évidemment, les baigneurs ou les bateaux ne peuvent pas pénétrer quand le chef de l'État est là. Mais aujourd'hui, 300 mètres, ça ne représente absolument rien pour les photographes,
évidemment,
avec les moyens techniques dont ils disposent.
Guillaume Daré, on a beaucoup reproché à ce fort son manque de confort. Alors, il y a beaucoup d'austérité, mais on peut aussi dire le trouver simplement sobre et élégant. Est-ce que c'est vrai? Vous y êtes entré?
Absolument. Alors, c'est certain que je ne sais pas si vous rêveriez d'y passer vos vacances.
Moi, je pense que oui. J'adorerais.
Parce que c'est vrai.
D'abord, on
que
est peinard. Enfin,
c'est extrêmement
silencieux.
Joli. C'est une vieille bâtisse de Provence, effectivement, avec une décoration des années 60-70. Ce qui est vrai, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser pour une résidence présidentielle, c'est pas bling-bling du tout, ça n'a rien de clinquant, c'est pas ostentatoire. C'est même effectivement un petit peu désuet, mais ça a son charme, hein, avec des rideaux style provençal, effectivement, décorés à l'époque notamment par Claude Pompidou. Mais c'est vrai qu'il y a ce bijou absolument extraordinaire à l'extérieur, avec ce jardin, cette vue panoramique sur la Méditerranée, et puis sur en face ces îles, hein, le Levant, Porquerolles, Porquerolles. C'est vrai que c'est assez extraordinaire, et comme les gens y vont a priori plutôt l'été, même si Valéry Giscard d'Estaing allait souvent y passer un week-end à la Pentecôte ou parfois l'hiver, comme les gens y vont souvent l'été, en fait on vit essentiellement dehors. Et c'est vrai que l'autre bijou dans le jardin, c'est cette terrasse qui est à l'arrière du fort, qui elle est abritée des photographes et où la plupart des présidents et leurs familles prennent leur déjeuner, petit déjeuner, qui est absolument extraordinaire, avec une petite anecdote, un drapeau qui est qui est dressé évidemment en haut d'en bas. Et les membres de l'Office du tourisme de Bormes-les-Mimosas me disaient « Maintenant, on le met en permanence, parce qu'avant, ils ne le mettaient que quand le chef de l'État était là. » Mais tous les gens appelaient à l'Office du tourisme en disant « Ah, le président est là, alors où est-ce qu'il va manger? Où est-ce qu'il va aller? Où est-ce que je peux le retrouver pour faire une photo ?»
Alors, lieu de villégiature, mais aussi de moments politiques. François Mitterrand, par exemple, qui est peu allé, il trouvait que ça manquait de terre là-bas. Il y a reçu Helmut Kohl, il y a Jacques Chirac a reçu Bouteflika,
absolument.
Je crois. Nicolas Sarkozy a reçu Condoleezza Rice.
Absolument, c'est là-bas qu'il a reçu Condoleezza Rice au moment de la crise qu'il y avait entre la Géorgie et la Russie. Sauf que Condoleezza Rice allait en Géorgie. Et donc sur le chemin, elle s'est arrêtée, puisqu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, présidait l'Union européenne et avait été extrêmement actif dans son rôle de médiateur au moment de cette crise. Donc il avait souhaité s'y arrêter. Lui, il était déjà en vacances au Cap Nègre, hein, puisqu'il est très vite allé ensuite au Cap Nègre,
la propriété de
son épouse
famille.
Carla Bruni. Mais ce que me dit son conseiller diplomatique, c'est que justement, il fallait un lieu qui soit politique. Il n'était pas question de le recevoir dans un lieu privé, chez son épouse, et que donc Brégançon, ça collait parfaitement, parce que, comme il me l'a dit, et on peut le dire familièrement, ça en impose quand on reçoit un responsable étranger. Brégançon, c'est un outil diplomatique.
Vous pensez que Donald Trump pourrait y être reçu, je sais pas, Angela Merkel, enfin ça pose après des questions d'espace aussi. Et
absolument,
de
mais ce qui est certain, c'est que l'entourage d'Emmanuel Macron, avec qui j'en ai parlé, effectivement, réfléchit sérieusement à faire de Brégançon un outil diplomatique pour le président Macron, pour y recevoir des chefs d'État étrangers. Alors, c'est vrai que la contrainte, c'est que vu la taille des lieux, l'absence d'un nombre de chambres suffisant, c'est souvent des rencontres qui ne peuvent durer qu'une journée et seulement des rencontres bilatérales.
Bien, et ça va rester ouvert au public, en un mot ?
Alors voilà, ça c'est la grande question, effectivement. C'est ouvert au public depuis 2014, c'est François Hollande qui l'avait ouvert. Ça a été un grand succès, hein. 55 000 personnes la première année, 30 000 ensuite chaque année. L'Élysée aujourd'hui m'a confié, c'est ce que je raconte effectivement dans ce livre à paraître le 6 juin, que dans la mesure du possible, il souhaiterait pouvoir conserver une ouverture au public.
Merci Guillaume Daret.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de cet ouvrage, donc Le Fort de Brégançon, histoire, secret et coulisses des vacances. Ça paraîtra donc le 6 juin aux éditions de l'Observatoire. Merci Guillaume Daret.